Troisième partie. L'oracle et les montagnes. Chapitre 1. Le garçon trouva l'oracle, et l'oracle faillit le détruire. Un vague instinct tira le pistolero de son sommeil, dans la pénombre de velours qui était tombée sur eux après le coucher du soleil. C'était au moment où Jake et lui avaient atteint l'oasis luxuriante et presque plane, le premier palier au-dessus des contreforts effondrés. Même dans le paysage misérable du dessous, quand ils avaient peiné et bataillé, pas après pas sous le soleil assassin, ils entendaient le son des criquets frottant leurs pattes l'une contre l'autre de façon suggestive, dans le vert éternel des bosquets de saules, au-dessus d'eux. Le pistolero était resté calme d'esprit, et le garçon n'avait maintenu au moins l'apparence, en façade, et le pistolero s'en était senti fier. Mais Jake n'avait pas pu dissimuler cette sauvagerie dans ses yeux blancs et fixes, les yeux d'un cheval qui sent l'eau et qui n'est retenu de s'emballer que par la chaîne ténue de l'esprit de son maître, comme un cheval à cet instant où seule la compréhension et non la cravache peut le maintenir calme. Le pistolero mesurait bien en Jake ce besoin. Il le sentait à la folie que paraissait insuffler dans son propre corps le bruit des criquets. Ses bras semblaient chercher désespérément l'argile pour les rafler, et ses genoux l'imploraient de les déchiqueter en balafres minuscules, salées et exaspérantes. Tout le long du chemin, le soleil les piétina. Même au crépuscule, lorsqu'il gonflait et virait au rouge fiévreux, il brillait d'un feu pervers à travers les entailles dans les contreforts, à leur gauche, les aveuglant et transformant chaque larme de sueur en prisme de torture. Puis la végétation était apparue. D'abord, rien que des buissons de crin jaune s'accrochant avec une vitalité effarante au sol nu, au bord du ruissellement de l'eau. Plus haut, c'était le royaume de l'herbe de la sorcière, d'abord éparse, puis s'étalant en vastes plans verts et luxuriants. Puis, la douce odeur de l'herbe, la vraie, mêlée à celle de la fléole des prés, dans l'ombre des premiers pins nains. C'était là que le pistolero avait vu fuser un éclair fauve, parmi les ombres. Il avait dégainé, tiré, et abattu le lapin avant même que Jake ait eu le temps de pousser un cri de surprise. La seconde d'après, il avait rengainé son arme. « Ici, » fit le pistolero. Plus haut, l'herbe devenait plus dense, s'enfonçait dans un bosquet de saules verts dont la luxuriance donnait le vertige après l'interminable cuvette stérile et desséchée. Il devait y avoir une source, voire plusieurs, et il y ferait même plus frais. Mais ils étaient mieux ici, à ciel ouvert. Le garçon avait marché aussi longtemps qu'il avait pu, repoussant ses limites, et il y avait peut-être des chauves-souris vampires dans le bosquet. Elle viendrait troubler le sommeil du garçon, même lourd, et si c'était bien des suceuses de sang, il était à craindre qu'aucun d'eux ne se réveillât, du moins pas dans ce monde-ci. « Je vais chercher du bois, » dit le garçon. Le pistolero sourit. « Non, tu ne vas pas chercher du bois. Assieds-toi. Prends place, Jack. » D'où venait cette expression? Une expression de femme? De Suzanne. Il ne se rappelait pas. Le temps est un voleur de mémoire. Celle-là, il la tenait de Valais, il le savait. Le garçon s'assit. Lorsque le pistolero revint, Jake dormait dans l'herbe. Une grosse mante religieuse se livrait à ses ablutions sur la mèche souple qui retombait sur le front du garçon. Le pistolero s'étrangla de rire, pour la première fois depuis une éternité. Puis il alluma le feu et alla chercher de l'eau. La jungle de saules était plus épaisse qu'il ne l'aurait cru, et le manque de lumière ajoutait à la confusion de l'ambiance. Mais il dégota une source, copieusement gardée par les grenouilles et les quinquets. Il remplit une de leurs outres et marqua une pause. Les sons qui emplissaient la nuit réveillaient en lui une sensualité anxieuse. Un sentiment que même Ali, la femme avec laquelle il avait couché à Tull, n'avait pas réussi à susciter. La majorité du temps passé avec Ali avait été pour les affaires. Il mit ça sur le compte du changement brusque de luminosité entre le désert et le bosquet. Après tous ces kilomètres aveuglants et désolés, la douceur de la pénombre semblait presque décadente. Il retourna au campement et dépouilla le lapin, tandis que l'eau bouillait sur le feu. Mélangé à leur dernière boîte de légumes, le lapin fit un excellent ragoût. Il réveilla Jake et le regarda manger, fatigué mais vorace. « On restera ici demain, » dit le pistolero. « Mais cet homme que vous suivez, ce prêtre ?»«
Il n'est pas prêtre, et ne t'inquiète pas, il attendra. »
« Comment vous le savez ?»
Le pistolero ne put que secouer la tête. Son intuition était forte, mais ce n'était pas une bonne intuition. Après le repas, il rinça les boîtes dans lesquelles ils avaient mangé, en s'émerveillant une nouvelle fois de toute cette eau qu'il gaspillait. Et lorsqu'il se retourna, Jake s'était rendormi. Le pistolero posa la main sur la poitrine de Jake, la sentant se soulever et redescendre. Et cette sensation qui lui était devenue familière faisait toujours ressurgir le souvenir de Cuthbert. Cuthbert avait l'âge de Roland alors, mais il paraissait tellement plus jeune. Sa cigarette s'obstinait à s'affaisser au coin de ses lèvres, aussi la jeta-t-il dans le feu. Il observa l'incandescence jaune, si différente, tellement plus propre que celle de l'herbe du diable lorsqu'elle brûlait. L'air était d'une douceur extraordinaire, et il s'allongea en tournant le dos au feu. Au loin, à travers le défilé qui menait à l'intérieur des montagnes, il entendit la voix sourde du tonnerre perpétuel. Il dormit. Il rêva.